C'est l'hiver, les vignes dorment autour des rives du lac, parfois sous une fine couche de givre. On se plonge dans leur histoire avec Patrice Alanfranchini.
Patrice Alanfranchini, professeur à la HEP et conservateur du musée de la vigne et du vin à Boudry. Il donnera une conférence sur l'histoire du vignoble neuchâtelois demain à 14h15 à l'université de Neuchâtel.
Et là, on va servir la tournée ensemble. Bonjour Patrice Alanfranchini.
Bien le bonjour.
Depuis quand finalement est-ce qu'il y a des vignes autour du lac de Neuchâtel ?
Ça fait belle lurette. On peut dire qu'il y a depuis 2000 ans, on a de la vigne autour du pays de Neuchâtel. C'est-à-dire que notre histoire est une histoire bimillénaire, ça c'est absolument certain.
Alors c'est une longue histoire, et sur quelle source est-ce que vous vous êtes basé pour l'étudier ?
Bon, alors il y a deux types de sources, il y a d'abord les sources archéologiques qui sont extrêmement rares, mais il existe quand même quelques tessons d'amphores qui prouvent qu'à l'époque romaine on avait ici sans aucun doute du vin. Il y a d'autres traces en Suisse qui montrent que la vigne était cultivée il y a à peu près 2000 ans. Et dans le canton de Neuchâtel, dans le pays de Neuchâtel, eh bien, les archives commencent à remonter à belle lurette, puisque la première trace de vigne date du Xe siècle. À partir de là, bon, c'est clair que les archives deviennent sérielles, surtout à partir du XVIe, XVIIe siècle.
Alors, on sait comment la vigne était plantée, où elle était plantée. Est-ce qu'on a une idée sur le goût qu'avait le vin à l'époque ?
Il était nettement moins bon qu'aujourd'hui, ça c'est certain. Le vin était une boisson qui était, disons, à court terme. Certaines années, il pouvait être extrêmement bon, d'autres années extrêmement mauvais. Et puis, le prix du vin variait effectivement en fonction de l'année. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du vin en bouteille, on avait du vin en tonneau. Et selon la quantité de vin récolté, on pouvait faire des vins de qualité, voire des vins absolument très mauvais.
Ça veut dire qu'il y avait aussi de bonnes années ?
Ah bien sûr qu'il y avait de bonnes années, il y avait des années exceptionnelles. Par exemple, 1616 est une année assez géniale, puisque cette année-là, quiconque apportait chez un vigneron un tonneau, deux tonneaux, disons, pouvait repartir avec un tonneau plein, tellement il y avait de vin. Mais on considérait souvent que ce qui comptait, c'était la quantité au détriment de la qualité. Et la quantité, eh bien, faisait qu'on avait tendance à faire tout le nécessaire possible pour que la vigne donne beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne cherchait pas à limiter la production, au contraire, on cherchait à la maximiser.
Alors, il fut un temps où le vignoble, c'était le premier facteur économique de la région. Comment est-ce qu'on peut imaginer le paysage viticole neuchâtelois à cette époque ?
Disons, au départ, le vignoble n'était pas continu entre, disons, le Landron et Vaumarcus. Le vignoble était séparé par des champs, par d'autres types de cultures. Mais à partir de la fin du XVIe et du XVIIe siècle, on peut considérer qu'il y a un ruban continu de vignes qui va du Landron à Vaumarcus. C'est-à-dire que le vignoble neuchâtelois, qui aujourd'hui recouvre environ 600 hectares, en couvrait à l'époque jusqu'à 1300, donc le double par rapport à ce qui existe encore aujourd'hui. Donc à partir de là, la vigne était omniprésente et les maisons dans les villages étaient généralement regroupées pour permettre justement aux gens d'avoir des terres qui rapportent, parce qu'une terre construite n'était pas une terre qui rapportait réellement beaucoup.
Et ce vignoble neuchâtelois, quelle importance est-ce qu'il avait à l'époque par rapport aux régions voisines, au canton de Vaud, voire plus loin au Valaisan ?
Alors disons, le vignoble valaisan, qui est aujourd'hui le vignoble le plus important de Suisse, était un petit vignoble par rapport au vignoble neuchâtelois. Le vignoble neuchâtelois, c'était finalement pour les habitants de cette région, pour les habitants du littoral, le seul moyen d'avoir, avant l'apparition des industries du 18e, comme l'horlogerie, la dentelle et autres, le seul moyen d'exporter quelque chose. C'était un apport économique relativement important. Si on considérait qu'à l'époque, on pouvait produire dans le pays environ 6 millions de litres, ce qui est quand même pas mal, eh bien on en exportait à peu près 3 millions, ce qui apportait finalement aux habitants de la région des espèces sonnantes et trébuchantes qui leur faisaient passablement défaut. Et même au niveau des petites gens, les petites gens avaient souvent peut-être une ou deux vignes, mais ces gens-là ne faisaient pas du vin, ils vendaient en temps de vendange leur récolte pour permettre, disons, aux grands propriétaires ensuite de faire encore des plus-values sur le vin. Mais quand on regarde un tout petit peu les comptes de certaines familles aristocratiques neuchâteloises ou bourgeoises neuchâteloises, on se rend extrêmement bien compte que ces gens-là faisaient du commerce de vin sur une échelle qui allait d'abord de la région, dans les montagnes, mais aussi à l'extérieur des actuelles limites du canton. Passablement dans l'espace du Jura bernois actuel, aussi en direction de Soleure, de
d'où Lucerne, la fameuse expression.
La fameuse expression sur Soleure, bien sûr, parce que c'est une expression extrêmement connue. Mais j'entends, le vin était vendu hors des limites de l'actuel canton. Et c'était cet apport financier qui était non négligeable. On peut même dire qu'au niveau fiscal, par exemple, jusqu'au XVIIe siècle, fin XVIIe, début XVIIIe siècle, un tiers des finances de l'État, c'est-à-dire provenait de la vigne et du vin.
Alors, on vient d'évoquer ce qui était la grande période de la culture de la vigne dans la région, où la surface de culture était le double de ce qu'elle est aujourd'hui. Au 19e siècle, ça a changé. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Déjà, il y a tout simplement eu des modifications au niveau des ouvriers de la vigne. Pendant des siècles, les ouvriers, c'était ceux qui étaient le moins bien payés. Puis à partir du 19e siècle, les salaires ont commencé à augmenter, si bien que le coût de production de la vendange a pris l'ascenseur. De plus, au 19e siècle, il y a un certain nombre de maladies qui n'existaient pas prioritairement dans le pays de Neuchâtel, à savoir des maladies qui ont été amenées par des essais d'acclimatation de cépages américains sur sol européen. Alors, je cite de mémoire l'oïdium, le mildiou, qui sont deux maladies plutôt cryptogamiques, et puis surtout une espèce de petit puceron qui a complètement bouleversé la culture de la vigne, qui s'appelle le phylloxéra. Et le phylloxéra, bien, ça a été une catastrophe. Et le phylloxéra, à un certain moment, on a même cru qu'avec les attaques phylloxériques qui ont commencé dans le sud de la France, que la vigne allait disparaître d'Europe, ce qui eût été sans aucun doute une catastrophe culturelle et économique sans nom. Mais finalement, on a trouvé un moyen et il a fallu renouveler l'entier des vignobles d'Europe en les complantant sur des porte-greffes d'origine américaine. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on continue de cultiver la vigne en Europe en ayant à disposition des cépages qui sont tous greffés sur des porte-greffes d'origine américaine pour pouvoir ensuite donner, finalement, avec nos cépages européens, les raisins qu'on connaît pour avoir les différents crus que l'on déguste aujourd'hui.
Alors, on a parlé tout à l'heure du fait que la quantité était plus importante que la qualité. C'est à quel moment que ça change, ça, et puis que la tendance s'inverse, et puis qu'aujourd'hui, on fait tout pour avoir le meilleur vin possible, quitte à en avoir très peu.
Alors, je crois que ce grand bouleversement a commencé à apparaître lors de la Deuxième Guerre mondiale. Au moment où on a cessé de payer les gerles, c'est-à-dire la récolte, à l'unité, mais au degré Huxley. À partir de là, en cherchant à obtenir finalement une qualité, on a poussé les gens à chercher la qualité. Et d'autre part, le canton de Neuchâtel a sans aucun doute été le premier à avoir pris des mesures extrêmement drastiques pour limiter la production. Et aujourd'hui, à Neuchâtel, on sait très bien que les vignerons mettent tout en œuvre pour avoir prioritairement d'abord un bon raisin, car si on a un bon raisin, avec les techniques actuelles, on peut faire obligatoirement un bon vin. Et on est sans comparaison avec ce que pouvaient être les vins d'autrefois, puisque aujourd'hui, chacun privilégie la qualité et surtout le produit d'excellence.
Alors, en s'intéressant aux vignes, votre conférence, elle a aussi pour but de s'intéresser à l'histoire économique et sociale de la région. C'est intimement lié, ces deux éléments.
Alors, ce que je vais essayer de montrer dans cette conférence, c'est comment les gens, finalement, les petites gens ici à Neuchâtel, augmentaient leurs moyens de subsistance en prenant à tâche auprès de grandes familles certains parchets de vignes. Et on a des comptes à travers des archives extraordinaires qui sont celles, je vais citer un nom de famille, qui sont celles de la famille Momelin, qui permettent de se rendre compte à quel point les liens entre propriétaires et ouvriers sont importants. Par exemple, un vigneron ou tâcheron du chancelier Georges de Montmolin pouvait être payé en argent, mais très peu, mais surtout en obtenant des grains, en obtenant des fromages, en obtenant des outils, ce qui lui permettait aussi d'ensemencer éventuellement le champ ou le jardin qu'il avait. Donc on sent une économie de troc extraordinaire, et ça scelle des liens. Et ces gens-là travaillent pendant des années pour un propriétaire. Ce propriétaire a une sorte de vision que je qualifierais presque de paternaliste parfois. Et à partir de là, eh bien, on peut rentrer dans l'intimité finalement de gens qui ont vécu au XVIIe, XVIIIe siècle.
Est-ce qu'il y avait déjà une espèce de concurrence, une espèce de concours entre les différentes régions qui produisaient du vin, Neuchâtel par rapport au Valais ou même par rapport à d'autres pays? Est-ce qu'on parlait des vins français, par exemple?
Alors, les vins français à Neuchâtel étaient plutôt interdits. C'était les habitants des montagnes qui essayaient d'obtenir des vins de Franche-Comté, parce qu'ils avaient une proximité avec la Franche-Comté, avant tout. Mais les bourgeois de Neuchâtel ont tout mis en œuvre pour protéger, durant des siècles, les vins de Neuchâtel. Ça a même été à la base de différents conflits qui perdurent peut-être encore dans les relations entre le haut et le bas. On peut dire que cette volonté de protectorat des vins de Neuchâtel par la bourgeoisie locale a été sans aucun doute un obstacle au développement des montagnes. En fait, si le Conseil d'État bourgeois de Neuchâtel ne voulait pas que les vins étrangers entrent en dans le pays, eh bien, ils ont aussi limité les réseaux routiers pour empêcher finalement que ces vins viennent. On peut dire que le vin a joué un rôle vraiment important, puisque la plupart des grandes familles neuchâteloises du Bas étaient propriétaires de vignes, et même de grands propriétaires de vins, comme on peut le voir actuellement, par exemple, dans notre exposition au château de Boudry, qui s'appelle « Vignes, vins et grandes familles ».
Comment est-ce qu'on buvait le vin à l'époque, Patrice Alain Franchini? Est-ce que c'était comme aujourd'hui un peu l'événement quand on en fait un beau repas ou un apéro qu'on se réunit, ou c'était autrement?
Mais le vin est la boisson sanitaire par excellence. La plus dangereuse, c'est l'eau. Et finalement, l'eau est un facteur de mortalité extrêmement conséquent. Le vin, dès qu'on a un peu d'alcool, eh bien, on risque un peu moins. Donc on buvait du vin, on en buvait sans doute beaucoup plus. Mais ce qu'on oublie complètement, c'est que si un vin aujourd'hui titre 12, 13, 14 degrés d'alcool, à l'époque, ce vin-là tournait autour de 7, 8, et certaines années, de temps en temps, 9, 10, et à partir de 10, on concevait qu'il était vraiment bon. Mais on a un autre rapport, disons, au vin. Le vin reste, il faut le dire aussi, une boisson qui était quand même relativement chère, mais les gens en buvaient tout simplement pour des questions sanitaires.
Donc même les enfants?
Y compris les enfants, et on a quelques traces qui montrent que certaines années, on trouvait des enfants qui avaient peut-être un peu trop bu. Mais bon, c'était des années exceptionnelles. Non, les enfants ne buvaient pas plus qu'ailleurs. Mais bon, vous savez, on a aussi conçu pendant très longtemps que l'alcool pouvait être un bon moyen de conservation.
Ce sera le mot de la fin, je crois ça.
Écoutez, santé et conservation, comme disait Vaudois.
Alors, l'histoire du vignoble neuchâtelois, c'est demain à 14h15 à l'Aula des Jeunes Rives à l'Université de Neuchâtel. Vous y serez, Patrice Alain Franchini, pour présenter tout ça. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre ce matin.
Merci à vous.
Merci, belle journée, et puis santé, évidemment.
Bah, c'est un peu tôt, peut-être, on va prendre un café maintenant.
On va prendre un café d'abord.